Radio Kapi. Gisèle Cache pour le journal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur Radio Okapi. Voici le principal titre de l'actualité de ce vendredi matin. Examen d'État, une session réussie. L'inspecteur général Hubert Kimbonza salue l'implication du secteur éducatif et annonce la publication de résultats dans moins d'une semaine. Procès de Joseph Kabila, des vidéos projetées à l'audience par la haute cour militaire, tandis que le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri se constituent partie civile. Prochaine audience le 7 août. Entretien du jour, regard croisé sur l'accord de paix RDC-Rwanda. Le professeur émérite Oscar Saman Olutu analyse le rôle du scientifique congolais et l'importance du management stratégique dans le processus de paix. Bienvenue dans votre journal sur Radio Okapi. Et on ouvre cette édition par cette affaire diplomatique. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exprimé hier jeudi une vive condamnation à l'égard d'un diplomate congolais interpellé en Bulgarie pour trafic de stupéfiants. Dans un communiqué officiel, le ministère a annoncé des mesures disciplinaires sévères, notamment le rappel définitif du diplomate concerné et la levée de ses immunité en raison de la gravité de faits qui lui sont reprochés. Ces comportements sont totalement inacceptables et ne seraient en aucun cas représenter les valeurs et le principe de la diplomatie congolaise, a précisé le ministère. Une mission conjointe des ministères des Affaires étrangères et de la Justice est attendue prochainement à Sofia afin de suivre de près l'évolution du dossier en collaboration avec les autorités bulgares. D'après des sources diplomatiques, l'arrestation a eu lieu le 17 juillet à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Le diplomate circulé à bord d'un véhicule officiel sans autorisation préalable de son ambassade de rattachement à un élément aggravant dans cette affaire. Le ministère a tenu à rassurer l'opinion publique quant à sa détermination à faire toute la lumière sur cette affaire qui soulève les enjeux majeurs en matière de probité, de discipline au sein du corps diplomatique et de l'image internationale du pays. Bonne nouvelle du monde de l'éducation. Après 4 jours de preuves intenses, la 58e édition de l'examen d'État s'achève sur une note positive. L'inspecteur général à l'éducation nationale, Hubert Kimbonza, s'est confié en exclusivité à Radio Okapi. Au téléphone avec Blaise Ndongala Mayanda, il salue l'implication de tous les acteurs du secteur éducatif qui ont permis une organisation réussie de cette session et le résultat seront publiés dans moins d'une semaine.
Nous sommes très contents. À travers l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, notre ministère et bien sûr tous les gouvernements congolais a réussi une fois de plus et a prouvé que tous les enfants avaient besoin et avaient droit à une éducation inclusive, chose qui a été faite parce que tous les candidats ont bel et bien présenté les épreuves en rapport avec la session ordinaire de l'examen d'État. Un autre point fort, c'est la prise de conscience de tous les acteurs éducatifs, à commencer par les inspecteurs et qui sont les tout premiers en rapport avec les évaluations, mais aussi tous les autres acteurs dont les enseignants qui étaient appelés à surveiller les épreuves. Et
à quand alors les résultats?
Je garde la primaire de l'information à l'autorité des tutelles, mais sachez-le qu'en moins d'une semaine, nos élèves, nos enfants seront en possession de leurs résultats.
Direction maintenant le Congo central où s'est tenue ce jeudi la 4e et dernière journée des épreuves de l'examen d'État. Comme partout ailleurs sur le territoire national, dans la province éducationnelle du Congo central 1, un fait marquant, plus d'une dizaine de finalistes enceintes ont pris part aux épreuves. Une participation saluée par l'inspecteur principal provincial Jean-Pierre Kokumbo qui s'est réjoui de la décision gouvernementale autorisant l'accès à l'éducation pour toutes les filles, y compris celles enceintes. Tous les enfants à l'école, c'est le slogan de l'UNICEF. Jean-Pierre Kokumbo y adhère pleinement depuis qu'il est à la tête du secteur éducatif dans la province. Le point complet avec Nana Plurish Mambou.
Dans la province du Congo central, les filles grosses et même celles qui viennent fraîchement d'accoucher ont participé à l'examen d'état et c'est conformément à la décision autorisant l'accès à l'éducation aux filles enceintes. Elles étaient plus d'une dizaine. Jean-Pierre Kokumbo, inspecteur principal provincial du Congo central 1.
Le lundi, il y a une fille qui a accouché et a passé ses épreuves sans incident. Et le mardi, il y a une qui était déjà en train de travailler au centre. Mais après avoir terminé, sentant déjà la douleur d'enfantement, elle est allée à l'hôpital accoucher.
L'une des filles candidates concernées, dont nous préservons l'anonymat, âgée de 17 ans, a présenté ses épreuves avec une grossesse de 7 mois. Elle s'en réjouit.
J'avais un peu honte du regard des amis sur moi, mais ça ne m'a pas empêché de donner le meilleur de moi-même. J'ai bien travaillé. Je suis sûre que j'aurai mon diplôme. Je remercie le chef de l'État. Sa décision a sauvé mon avenir.
Rappelons que plus de 63 000 finalistes du secondaire du Congo central ont pris part à l'examen d'état. Tous les 173 centres de passation organisés pour cette activité ont fonctionné normalement et aucun incident n'est enregistré. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Cap sur le Nord Kivu pour boucler ce chapitre dans les provinces éducationnelles Nord Kivu 1 et 3. Les autorités locales dressent un bilan globalement positif malgré un contexte sécuritaire tendu. Un peu plus de 30 000 candidats étaient inscrits dans ces entités couvrant Rutshuru, Masisi, Walikale, Nyiragongo et la ville de Goma. Mais dans certaines zones touchées par les affrontements entre le groupe Wazalendo et AFC M23, une déperdition d'élèves a été observée. Les précisions avec Stanislas Dumi.
Nord Kivu 1 affiche un total de plus de 23 000 inscrits, alors que Nord Kivu 3, qui couvre le territoire de Walikale et une partie de Masisi, affiche quant à elle un effectif d'environ 10 000 inscrits. Si la déperdition n'a été très importante dans la ville de Goma et le territoire des Nyiragongo, cela a été constaté dans plusieurs autres sous-divisions. Dans la sous-division Rutshuru 2, par exemple, au moins 84 élèves n'ont pas répondu présent sur le 914 finalistes inscrits pour cette année. Après près de 3 années d'insécurité dans le groupement de Bukombo, Bambo et Tongo, chefferie de Buito, plusieurs écoles ne sont plus opérationnelles. Et ce qui justifie, selon cette source, ces sous-effectifs constatés, notamment dans le centre de passation d'examen de Singa qui a été le plus affecté. Dans la partie nord-est de Walikale, les centres du groupement d'Ikobo ont aussi subi cette déperdition. Sur les 768 inscrits dans les trois centres opérationnels des agglomérations de Rusamambu et Buleusa, au moins 134 élèves ont été absents. Le mouvement de population et la dégradation de la situation sécuritaire de derniers jours sont la cause de cette situation, indiquent les acteurs locaux.
Dans les volets judiciaires de ce journal, au procès contre l'ancien président Joseph Kabila, la haute cour militaire a projeté plusieurs vidéos à l'audience publique de ce jeudi, présentées comme pièce à conviction par le ministère public. Parmi les éléments projetés figurait une interview accordée par les prévenus en Afrique du Sud en présence de l'ancien président Thabo Mbeki, son discours prononcé à son arrivée à Goma, ainsi qu'une déclaration de son proche collaborateur Kikayabine Karoubi. Par ailleurs, les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri se sont constituées parties civiles dans cette affaire. La prochaine audience est fixée au 7 août. La République, en tant que partie civile, a expliqué les raisons de son engagement dans ces procès, affirmant défendre les intérêts de l'État congolais. Maître Richard Mbondo, coordonnateur de cette partie civile, s'est exprimé à ce sujet au micro de Jeff Ngoy.
Tout se passe dans les normes, notamment la lecture des procès-verbaux et la projection des preuves visuelles, où il y a les messages de Monsieur Kabila, où il y a dans les données visuelles, où vous avez vu même Monsieur Kikayabine Karoubi, où nous avons le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et pour le haut commissaire, ce qui est tout à fait pertinent par rapport au dossier qui nous concerne, ce qu'il a qualifié, ce qui s'est passé dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, perpétrés par qui? Par la bande à celui que nous avons appelé ici, Monsieur Joseph Kabila Kabangi. Et vous savez, les intérêts de la République sont énormes, surtout que la République envers a le devoir d'assurer la protection à tous les Congolais.
Petit rappel, Joseph Kabila, sénateur à vie, est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité en lien avec son soutien présumé à la rébellion AFC-AM-23. Célébration au féminin, ce 31 juillet, le monde a marqué. C'est jeudi la journée de la femme africaine, une occasion de rendre hommage à la contribution historique des femmes du continent dans la lutte d'indépendance, la paix, les développement. À Béni, dans le Nord Kivu, l'Association des femmes pour la nutrition a assise communautaire, AFNAC, et le collectif des associations féminines pour le développement, CAFED, en partenariat avec la section des affaires civiles de la MONUSCO, ont organisé une conférence de bas autour du rôle des femmes dans la construction d'une Afrique plus équitable. En présence des responsables locaux de la MONUSCO, les participantes ont plaidé pour des sanctions fermes de l'ONU contre la rébellion AFC-AM-23 et pour une implication réelle des femmes dans le processus de paix. Victorine Mouima Kamala, présidente de l'organisation Initiative pour le changement, paix et développement, s'est confiée à Martial Papimoukeba.
Nous avons épinglé la résolution 2773 qui vraiment a condamné les violences qui ont été commises par l'homme 23 et exigé aussi le retrait des forces rwandaises qui appuient l'homme 23. La résolution, oui, elle est bonne, mais il n'y a pas de mesures contraignantes parce qu'aujourd'hui, le M23 continue à se taper la poitrine en disant qu'elle ne quittera pas les zones occupées. S'il n'y a pas de mesures contraignantes, le conflit ne va pas se terminer tôt. Et l'autre recommandation, ça concerne un peu la participation des femmes dans la résolution des conflits. Mais nous avons vu à Doha, à Washington, aucune femme. Et à la MONUSCO, de voir encore comment faire le plaidoyer pour que les femmes réellement puissent participer dans les assises qui se font maintenant à Doha. Qu'on n'oublie pas les victimes. N'importe qui peut parler pour les femmes. Mais nous qui avons vécu les atrocités à Goma, à Bukavu, je pense que nous pouvons mieux nous exprimer parce que nous avons vécu ça dans nos peaux.
Direction le Lualaba où une opération coup de filet a eu lieu ce jeudi dans le village Sadam. Plusieurs ressortissants chinois ont été arrêtés dans la concession de l'entreprise minière Metalcol. Selon des sources locales, ils exploitaient illégalement des minerais dans cette zone privée. L'intervention a été menée par le ministre provincial des mines du Lualaba qui dénonce une exploitation hors cadre légal. Toujours selon le même source, ces individus seraient soutenus par des personnes s'y réclamant de la famille présidentielle est protégée par des militaires. Le point complet avec Paulin Munanga.
Cette concession minière située dans la cité de Moussounoui est exploitée par l'entreprise Metalcol. Elle est envahie illicitement par des Chinois et d'autres personnes. D'après des sources locales, l'entrée du site est protégée par des militaires qui ont placé une barrière et interdisent tout accès. Le ministre provincial de Mines du Lualaba, accompagné par le directeur provincial de l'antifraude, descend sur le site pour démanteler ses réseaux. À l'intérieur, plusieurs Chinois accompagnés de Congolais sont surpris et maîtrisés. Des camions, engins et autres véhicules sont saisis. Des sources à Kolwezi annonce que plusieurs camions de minerais quittent cette concession illégalement sans payer des taxes. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les agents de Metalcol ont manifesté la veille pour dénoncer l'envahissement de leur site. Ils ont barricadé la route nationale numéro 39 et ont brûlé des pneus. L'un des agents de Metalcol s'exprime.
C'est nous qui sommes Congolais, c'est nous qui sommes employés et nous disons que si on ne fait rien, nous risquons de perdre l'emploi et nous risquons d'être précipités au chômage. Voilà pourquoi nous voulons bien que le responsable de la province puisse venir nous dire qu'est-ce qui se passe. Metalcol a un permis d'exploitation. Mais ces gens viennent protégés par la famille présidentielle, entre guillemets.
Radio Okapi a tenté en vain de contacter le ministre provincial de Mines du Lualaba. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
À Kinshasa, les bourgmestres tirent la sonnette d'alarme. Le 24 bourgmestres de la capitale font face à une pénurie généralisée des ressources. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, ils affirment n'avoir reçu ni frais d'installation, ni budget de fonctionnement, ni émoluments depuis leur nomination. Une situation qui complique sérieusement la gestion des communes, notamment dans la lutte contre l'insalubrité. Ils appellent le président de la République à leur venir en aide avec des moyens financiers adaptés aux besoins urgents. On écoute un extrait de cette déclaration lue par Jean-Charles Poba, bourgmestre de Limba et coordonnateur du collectif des bourgmestres de Kinshasa, extrait choisi par Alain Ronga.
S'agissant des orientations données par le président de la République, lors de la 53e réunion du Conseil des ministres relative à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, les bourgmestres et bourgmestres adjoints ont favorablement accueilli cette initiative combien louable, à même de redorer le blason terni de Kinshasa. Cependant, les bourgmestres et bourgmestres adjoints tiennent à préciser que l'assainissement exige d'énormes moyens tant financiers que logistiques dont les entités territoriales décentralisées ne disposent pas. Les appuis financiers qui devraient émaner tant du pouvoir central que du pouvoir provincial n'arrivent presque pas, mettant ainsi en difficulté les animateurs de dix entités.
Ce vendredi 1er août, les Congolais célèbrent la journée dédiée aux parents vivants et disparus, une journée fériée en République démocratique du Congo, marquée par de gestes de mémoire et de respect. Nombreux sont ceux qui se rendent dans les cimetières pour entretenir les tombes de leurs proches. Si les sites privés s'organisent généralement pour maintenir les lieux en bon état, la situation est bien différente dans la majorité des cimetières publics, souvent laissés à l'abandon. Car Mbouyo et Josué Kefebe se sont rendus au cimetière de Kintambo pour constater la réalité sur le terrain. Suivez leur reportage.
Avec les herbes folles qui grimpent sur les tombes, les allées à moitié recouvertes par la végétation, le cimetière de Kintambo ressemble à une brousse. Pourtant, les agents de l'État commis sur ces sites assurent que l'entretien s'est fait. Ce que confirment ces fossoyeurs trouvés sur place.
Chaque matin, nous prenons nos outils pour désherber et entretenir les allées. Cependant, nous n'avons pas les droits d'intervenir sur les tombes endommagées. Nous pouvons éventuellement essayer de les arranger, mais si les propriétaires viennent, ensuite, ils pourraient penser que nous avons commis une maladresse ou une négligence.
Il arrive malheureusement, comme tous les 1er août, que certaines familles ne retrouvent pas les tombes de leurs morts. Il explique comment il les aide à y parvenir.
Lorsque les familles viennent chercher une tombe, il arrive souvent qu'elles ne la retrouvent pas immédiatement. Dans ces cas, nous enregistrons l'identité du défunt ainsi que leurs coordonnées téléphoniques. Ensuite, de notre côté, nous faisons des vérifications. Si nous localisons la sépulture, nous les contactons.
Selon un des responsables de ces sites proches du quartier Kanluka, ce cimetière créé en 1953 accueille mensuellement environ 200 morts.
Actualité internationale.
Ukraine, au moins 11 civils, dont un garçon de 6 ans, ont été tués et plus de 130 blessés lors des frappes russes sur Kiev, dans la nuit de mercredi à jeudi, selon la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies. Parmi les blessés, au moins 10 sont des enfants et ce chiffre pourrait augmenter jeudi matin. Le Conseil de sécurité s'est réuni à New York pour discuter de la situation en Ukraine à la demande de la Russie. Pendant la nuit, la Russie aurait lancé 309 drones et 8 missiles de croisière causant des dégâts importants malgré les efforts des défenses aériennes. ONU à Ukraine a rapporté que les frappes ont été si rapides que les habitants n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Plus de 100 bâtiments, dont des maisons, des écoles et des établissements médicaux, ont été endommagés. Cette attaque s'inscrit dans une série de violences récentes incluant des attaques le week-end dernier qui ont fait au moins 20 morts et plus de 120 blessés. Une attaque contre une prison lundi qui a tué 16 détenus et une frappe contre un hôpital qui a fait 3 morts depuis juin. Les attaques des missiles et des drones ont considérablement augmenté, faisant 232 morts et 1343 blessés.
L'invité.
Nous recevons le professeur émérite Oscar Saman Olutu, recteur et président du conseil d'administration de l'université du centre de promotion à management et développement CEPROMAD. Dans un entretien accordé à Marcel Ngombo, il revient sur l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington. Il analyse donc le rôle que peuvent jouer les scientifiques congolais dans ces types de processus et souligne l'importance du management stratégique et opérationnel dans la conception des accords afin d'éviter les divergences lors de leur mise en œuvre. Suivez cet entretien.
Professeur émérite Oscar Saman Olutu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené une réflexion autour de l'accord de Washington qui vise à mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC. Concernant précisément cet accord de Washington, vous évoquez un dialogue des sourds.
Il faudra peut-être une précision. Si j'interviens ici, j'interviens pas au nom de ce promade, j'interviens pas au nom d'une institution quelconque, mais j'interviens comme un scientifique. un spécialiste en management et un spécialiste en management stratégique opérationnel qui veut en fait utiliser tous les moyens qu'on peut éventuellement utiliser pour arriver à trouver la place de la réflexion, la place du scientifique dans tout ce qui est en train de se faire, entre autres, ce problème de dialogue de Washington.
Donc vous pensez que le scientifique n'a pas suffisamment sa place, et notamment pour ce qui est de l'accord de Washington?
Je crois que le scientifique est sous-utilisé, ou le scientifique s'utilise mal. Sous-utilisé dans le sens que la question est de savoir, est-ce que le scientifique, l'universitaire, il faut bien entendre ça. Il y a une différence entre un universitaire, un intellectuel et les autres. Un universitaire, c'est celui qui non seulement a un diplôme universitaire, mais il vit de son diplôme universitaire, il se soigne de son diplôme universitaire, il travaille et fait tout autour et en fonction de ce qui est universitaire. Et il a comme mission principale enseignement, recherche et service à la communauté. Alors à ce moment-là, j'estime que la place, celui-là, n'est pas suffisamment utilisée. La faculté de polytechnique, à Lomé, ici chez nous, est-ce qu'elle est associée dans ce qui est travaux d'infrastructure? La faculté de droit, ainsi de suite, peut-être là il y a des avocats, il y a ceci, cela, ainsi de suite. Mais comme corps, est-ce que ceux-là sont suffisamment utilisés? Au Congo, il y a 8 domaines scientifiques que nous connaissons. Éducation, psychologie, agronomie, ainsi de suite. Ceux-là qui sont universitaires, pas seulement intellectuels, autodidactes, mais universitaires, est-ce qu'ils sont suffisamment consultés? Comment est-ce qu'on devait les consulter? Il y a le système des think tanks que nous, on propose. Il y a le système des incubateurs que nous, on propose. Et puis, il y a tous les systèmes qui existent, qui sont consultés partout ailleurs pour pouvoir émettre un avis dont la contribution des universitaires spécialisés dans un domaine bien déterminé.
Alors, parlons justement de l'accord de Washington. Après l'avoir observé et exploré, en tant que scientifique, vous pensez que c'est un dialogue de sourds. Pourquoi?
Oui, je n'ai pas dit que c'était un dialogue de sourds. J'ai dit l'interprétation se présente comme un dialogue de sourds. Dans le sens que l'accord de Washington comme tel est une très bonne chose. Il faut féliciter l'accord, il faut féliciter ceux qui ont dû travailler, mais au niveau de l'interprétation, quand des gens font des commentaires, on s'aperçoit qu'ils en font un dialogue de sourds dans le sens qu'ils ne discutent pas de la même chose. Quand les uns parlent au niveau stratégique, les autres parlent au niveau opérationnel. C'est pourquoi ils ne se comprennent pas. C'est comme si on mettait l'émotionnel avant les scientifiques et l'objectivité scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pourquoi nous croyons qu'il y a les états généraux d'enseignement supérieur et universitaire ont dû injecter, rendre obligatoire l'apprentissage des management stratégiques opérationnels dans tout le domaine scientifique. Là, il faut féliciter ceux qui ont pu penser à cette affaire-là pour qu'on puisse réellement voir comment éviter ce dialogue. Parce que les gens vont parler de la même chose. On peut parler le même langage sans parler les mêmes langues. Alors nous voulons arriver à un langage scientifique pour que les gens se comprennent.
Oscar Ntsaman Olotu, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci bien.
C'était le professeur émérite Oscar Ntsaman Olotu, recteur et président du conseil d'administration des universités du CEPROMAD. Il nous a partagé sa lecture de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda en insistant sur le rôle stratégique que peuvent jouer les scientifiques congolais dans la consolidation de la paix. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage à la mise en onde, Alain Goy, coordination assurée par Alain Rong sous la supervision de Pauli Mouzali. Retrouvez ce journal en podcast sur notre site www.radiocapi.net et suivez toute l'actualité en continu sur Radio Capi et sur nos réseaux sociaux. À très vite sur la même fréquence.